Dubaï, Beyrouth, Buenos Aires, Londres, Montréal, hier la Belgique, aujourd'hui Paris, de ville en ville je migre, de culture en culture j'amasse, mais qui suis-je ?
Pascal Paradou.
Qui est-elle ? Question existentielle qui se pose quand on regarde l'itinéraire de Yara El-Radban, aujourd'hui notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, spécialiste de musique, mais aussi et surtout écrivaine, et vous avez un parcours étonnant. Est-ce que vous vous posez cette question ? Qui suis-je ?
Étonnamment, non. J'ai toujours eu un sens très fort de mon identité. C'est peut-être à cause de ma famille. Non, je me pose pas la question « qui suis-je ?» mais les gens beaucoup me la posent et je comprends pourquoi.
Oui, parce que toutes les villes que je citais au tout début de l'émission, Dubaï, Beyrouth, Buenos Aires, Londres, Montréal, où vous vivez aujourd'hui, sont des villes où vous avez vécu, où vous êtes né. Donc je me dis, elle doit se sentir, je sais pas, migrante, exilée, déracinée, enfin... Plusieurs mots sont possibles.
Oui, oui. En fait, je suis une exilée de naissance et c'est la seule condition que je connais. Et c'est intéressant parce que avant d'arriver au Canada, je croyais que c'était un état quand même normal. C'est drôle, si c'est la seule chose qu'on connaît. Puis un jour, j'étais à l'université, je faisais mes études en piano et une amie à moi qui faisait du chant, de l'opéra, m'a dit, elle avait 35 ans, elle m'a dit, ah, je vais faire mon passeport pour la première fois. Pour aller aux États-Unis et j'étais complètement abasourdie parce que toute ma vie, moi, ça a été une quête de papier, de passeport et cette femme-là, toute sa vie...
À 35 ans.
Oui, a vécu au même endroit.
Et alors, comme une pirouette ou comme une provocation, je n'en sais rien, votre roman qui sort actuellement s'appelle « Je suis Ariel Sharon ». Vous êtes un peu comme un coucou qui fait son nid dans la tête des autres. C'est ça le statut d'exilé ?
Oui, peut-être, parce que le monde entier est dans ma tête. Donc, oui, j'ai voulu entrer dans la tête de ce personnage qui a marqué l'histoire des Palestiniens, et souvent de façon très négative et très bouleversante. Mais j'avais beaucoup de questions par rapport à lui, et je me suis dit la meilleure façon de trouver des réponses, c'est d'écrire un livre.
Oui, parce qu'il y a une forme de provocation à penser « je suis Ariel Sharon » quand on est d'origine palestinienne comme vous. Il disait, ou on disait de lui, qu'il était le boucher de Beyrouth, sur donc on lui a donné après le massacre de Sabra et Shatila, ou je suis le bulldozer, car il était l'homme de l'implantation des colonies en Cisjordanie. Donc est-ce que vous pourriez dire ça, je suis le bulldozer ?
Non, et j'ai eu beaucoup de difficultés d'ailleurs à apprivoiser ce titre. Ça m'a pris du temps, il fallait que je pratique devant un miroir.
Mais
oui, parce que c'est très dur comme titre pour une Palestinienne. Mais c'est un titre qui s'est imposé de lui-même parce que le roman, c'était vraiment ça, c'est d'entrer dans la peau, entrer dans la conscience de cet homme. Et je voyais pas d'autres titres qui disaient mieux ce voyage que j'entreprenais.
Parce que je suis, cela suppose depuis quelques événements, une sorte de compassion, de très grande proximité. Je suis Charlie, je suis dans toutes les villes où un attentat défigure l'humanité. Donc dire « je suis Sharon », en effet, c'est pas rien.
Non, pas du tout. En fait, c'est drôle. Ici, en Europe, on me fait souvent la référence à « je suis Charlie », mais je rappelle que moi, j'écris de l'Amérique du Nord. Donc, j'ai pas du tout pensé à ça. Pour moi, le « je suis » est beaucoup plus existentiel. C'est une question de qui est cet homme, et c'est de déconstruire ce personnage, vivre dans sa peau, et poser la question « qu'est-ce qui nous fait humain, vraiment ?» Donc, la référence n'est pas nécessairement justement à « je suis Charlie » ou les autres équivalences.
Alors, on reviendra bien sûr sur votre roman, Yara El-Radban. Mais d'abord, racontez-moi votre voyage, parce que comme vous le dites, vous écrivez depuis l'Amérique du Nord, vous vivez à Montréal. Et j'ai lu que quand vous débarquez à Montréal, je sais pas quel âge vous avez, vous êtes une jeune femme, une jeune adolescente, vous ne connaissez pas un mot de français.
Non, pas du tout. Alors, c'est ça, j'ai appris le français...
Et vous parliez quoi ?
Oh, je parlais arabe, je parlais anglais, je maîtrisais en fait parfaitement l'anglais et l'arabe parce que j'avais une éducation bilingue, j'ai appris à écrire et à lire dans les deux langues. Et voilà, on est arrivés immigrants avec ma famille et il fallait apprendre la langue. Mais j'ai toujours eu de la facilité avec les langues et c'est une langue que j'ai aimée très tôt, très vite. Et donc, au bout de 2-3 mois, je la parlais. Mais si vous m'aviez dit que, à 13 ans, qu'un jour j'écrirais un roman en français, je pense que j'aurais ri.
Quand même!
Non, c'était pas dans les cartes à l'époque.
Mais oui, alors justement, pourquoi le français? Puisque vous pourriez écrire aussi bien en arabe ou en anglais.
Oui, c'est vrai.
Avec peut-être plus d'audience d'ailleurs. Est-ce que écrivant en anglais,
oui,
on n'a pas plus
souvent
d'audience?
Souvent, mes amis québécois me disent
français.
Ça, justement.
Je me fais l'avocat du diable, hein, en disant
non,
ça.
Non, c'est une question légitime. Mais en même temps, je considère que le français m'appartient tout comme l'arabe et l'anglais. Donc, c'est pas une question de choix et c'est pas quelque chose de particulier ou une exception que je fais. Mais c'est vrai que entre les trois langues, c'est peut-être la langue que j'ai choisie parce que les deux autres langues, je les ai héritées. Et j'ai décidé de poursuivre mes études en français au niveau collégial, alors que j'aurais pu les poursuivre en anglais. Et c'était un moment, peut-être comme un acte d'indépendance. Et c'est une langue que je trouve très belle et très poétique. Et ça sort en français, alors voilà.
Yaral Radban, le français est donc votre langue d'écriture, votre langue littéraire. Est-ce que c'est aussi votre langue intime?
Ah, ça c'est très difficile à dire. Dans quelle langue on rêve, j'ai aucune idée dans quelle langue je rêve, mais c'est intime. Oui, c'est très intime parce que tout ce que j'écris, quand on produit un livre, quand on imagine des personnages, quand on donne naissance à des personnages, je pense que c'est l'acte le plus intime possible. Donc je considère que oui, c'est une langue très intime pour moi.
Je parlais pas simplement du rêve, mais ici à ce micro, il y a quelques semaines, Eri De Luca, cet auteur italien, mais napolitain, disait qu'il s'enguirlandait, enfin, il, vous voyez, se faisait des reproches en napolitain. Et que c'était ça, la vraie langue maternelle. Celle avec laquelle on se fait des reproches. Vous faites des reproches en quelle langue?
Oui, c'est vrai que l'arabe est... Oui. Si on le prend comme ça, l'arabe reste ma langue la plus intime. Ça, c'est vrai.
Yara El Radban, le français, langue littéraire, langue internationale. Il se passe toujours quelque chose dans le monde francophone. Et aujourd'hui, c'est à Cotonou, au Bénin, que nous allons. Un coup de fil et nous voilà ailleurs, à Cotonou, avec Jean-Michel Gasparian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut français du Bénin et on va rire, du moins, samedi prochain.
Tout à fait, avec un spectacle de Yannick Kenneth, Défoncé, qui connaît aujourd'hui une vraie réputation, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc nous, on est heureux de partager du vivant avec lui.
Et donc des choses pas forcément toujours très sérieuses. Est-ce que c'est bien le rôle d'un institut français?
Alors écoutez, c'est une volonté que nous avons depuis un peu plus d'un an, que de donner au stand-up ses véritables lettres de noblesse et sa place, toute sa place à l'Institut. On a eu un très bel événement lors de la francophonie l'année dernière qui s'appelait Les Truculents de la République, hein, donc avec Aliou Bindine et ses étudiants, qui étaient en fait un grand stand-up sous forme d'émission de télévision. On a eu ensuite un concours autour des femmes et le stand-up. On a peu de femmes humoristes, alors on me disait que ça marcherait pas, mais si, ça a marché. Nous avons eu 5 candidates et une est allée au Cameroun, donc pour l'émission de Valérine Dongo, c'est Valérine Dongo et ses drôles de dames. Donc voilà, nous continuons sur le stand-up. Et nous persistons, encore une fois, il y aura aussi un nouvel épisode des Truculents de la République ensuite.
Vous savez qu'on peut dire seul en scène pour stand-up?
Oui, on peut dire seul en scène, tout à fait. Mais bon, partageons ce goût du bilinguisme et cette simplification, voilà.
C'est votre responsabilité. Alors on va écouter un extrait de la bande-annonce du spectacle de Yannick Kenneth où il se justifie sur le titre « Défoncé ».
Pourquoi défoncer? Les gens sont perplexes. Allez vous fumer sur scène?
Pour moi, défoncer, c'est plus que ça. C'est tout un concept. C'est face à la vie. Pour moi, t'as deux options. Soit t'es de défense, soit tu la défends.
Et donc, vous avez choisi de la défoncer?
Non, mieux, j'ai choisi la troisième option. Me défoncer. Se défoncer, c'est aller au-delà de ses limites. Pour planer plus haut. C'est se relever après chaque chute et éliminer ses faiblesses.
Donc vous n'allez pas nous défoncer, mais vous défoncer.
Exact. Sauf si vous voulez que je vous défonce. De rire, bien entendu. I am the
Défoncé de rire, j'ai eu un peu peur, Jean-Michel Gasparian, en écoutant la bande-annonce. Il a toujours un humour un peu limite comme cela, Yannick Kenness ?
Oui, mais je pense que c'est important de franchir des limites, y compris dans l'usage de la langue. Pour reprendre un petit peu votre tacle amical sur l'usage de stand-up, je pense que l'intérêt du stand-up n'est pas seulement dans ses contenus, mais dans la créativité de la langue française. C'est une expérience que j'ai eue lorsque je dirigeais le centre culturel alors à Cotonou. Je m'étais vraiment rendu compte de la capacité de l'humour à générer une véritable innovation dans la langue française, avec des gens que j'ai connus comme Valérine Dongo, comme Major Assé, et qui ont fait une carrière à travers le tarmac par exemple en France. Donc il y a un véritable objectif autour de la langue française et la créativité de l'humour.
Donc sans frontières. Merci beaucoup Jean-Michel Gasparian. Et donc rendez-vous à l'Institut français de Cotonou. C'est dans le théâtre en plein air, c'est ça ?
Oui, ça sera en plein air et on est prié de venir sans être défoncé. Je crois que le spectacle sera suffisant à lui-même.
Merci beaucoup donc Yannick Kenness, ce samedi à Cotonou.
Quitter à temps, avant que ce ne soit important. Tes coups de cœur m'ont laissé sentir les coups de poing que j'allais retenir. T'avais mis tes doutes en avant, moi j'essayais de prouver au vent que jamais je ne pourrais fléchir, que toujours tu me verrais grandir. J'aimerais te dire en volant la lourdeur de mes sentiments que je n'ai pas trop su traduire. Ça suffirait de se souvenir. Ah, j'en ai passé du temps sous l'eau à esquiver tous les échos. Je voulais toi, t'étais ma loi. Qu'ils viennent me tchatcher, je vais le crever.
J'aimerais, Johann Papaconstantino sur RFI, coup de cœur aussi du magazine Les Uns Rock pour ce musicien marseillais d'origine grecque. Yara El Radban, je suis Ariel Sharon et votre troisième roman en français, les trois. Si l'on parle encore quelques secondes de musique, dans quel français avez-vous l'impression d'écrire ? Avec quelle musique finalement ? Est-ce que c'est du français de Montréal ?
En fait, j'ai envie de vous dire que...
Tout d'un coup, vous avez une petite pointe d'accent québécois.
Oui, on me le dit. Ça dépend avec qui je parle. Mais quand j'écris, si vous voulez que je vous dise la vérité, ce que vous lisez, c'est pas vraiment seulement le français. C'est le français, l'arabe, l'anglais. Toutes ces langues-là sont dans mon écriture. Et souvent, avec mon éditeur, il y a un jeu quand on se met à corriger le manuscrit. Et parfois, il va trouver une métaphore un peu étrange ou une structure de phrase un peu bizarre. Et il va me dire, Yara, c'est dans quelle langue que tu as écrit ça ? C'est pas du français. Donc, je pense que c'est une langue habitée par toutes les autres langues que je parle.
Mais cela ne me surprend pas du tout parce que je trouve qu'il y a des volutes, il y a des arabesques, il y a des cassures aussi dans l'écriture, une forme de sensualité. Et si c'est un récit, vous aimez à casser le rythme lui-même. Mmh. Par exemple, vous énoncez une chronologie, tout d'un coup, pof, c'est des dates. Ou alors, vous dérivez, vous allez vers la poésie.
C'est vrai. Je ne sais pas si c'est ma condition d'exilé qui fait ça, mais moi, dans ma tête, il y a toujours plusieurs temps, plusieurs lieux, plusieurs langues. Et je pense que c'est très difficile pour moi d'écrire de manière linéaire. Et je crois que ça transparaît dans mon écriture. Ça peut être déroutant parfois, mais je demande au lecteur de m'accompagner et de se laisser aller. Et c'est pas grave s'il se perd un peu. C'est un voyage.
Et puis ce sont des respirations. Le récit de la vie et des rêveries d'Ariel Sharon. Et tout d'un coup, je ne suis pas une mèche. Je suis l'histoire que l'on ne raconte pas. La voix que tu tais en toi, la femme voix. Ça oui. se tient tout seul. Ça pourrait oui. être un poème isolé.
Oui, et ça, c'est aussi la musicienne. Par exemple, quand j'écris, je lis toujours à voix haute ce que j'écris. Et pour moi, la question du rythme est très importante. La succession des voyelles. J'ai des préoccupations très musicales quand j'écris. Et je pense que c'est ça qui transparaît. Ça vient probablement de l'arabe aussi, parce que la poésie arabe classique a une métrique très stricte qui m'habite. Donc, je peux parfois changer un mot juste parce que, en le lisant, j'ai l'impression que le rythme ne fonctionne pas. Je peux décider d'enlever des prépositions, même si, dans une règle quelconque, on te dit, il faut mettre un 2. Je décide, non, j'ai pas envie de mettre un 2 là, parce que ça casse mon rythme. Donc, ça donne des choses assez intéressantes, je pense, j'espère. Il y en a qui aiment, d'autres qui aiment moins. Mais c'est ça, aussi, écrire.
Oui, c'est se donner cette liberté de réinventer leur langue à chaque fois. Yara Al-Radban, vous parliez de votre condition d'exilé. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont des romans, et celui-ci notamment, Je suis Ariel Sharon, où votre condition de femme apparaît, transparaît et se raconte?
Tout à fait. S'il y a une chose que je fais délibérément dans tout ce que j'écris, c'est de mettre de l'avant la voix des femmes. Pour moi, ça c'est très important et... parce que l'histoire n'a pas été assez racontée par les femmes. En fait, c'est même pas vrai. Les femmes racontent toujours l'histoire, mais on ne l'entend pas, ou on ne l'écrit pas, et on l'efface. Et pourtant, les femmes vivent dans le ventre de l'histoire. Et je crois que si on lisait l'histoire du point de vue des femmes, on aurait une autre histoire de l'humanité. Et je risque même de dire qu'elle serait une histoire moins violente et plus belle et plus complexe. Donc j'essaye, moi, de faire ma contribution à travers mes personnages. Et c'est pourquoi, même dans un roman où le personnage principal est censé être un homme militaire, très, très macho, ce sont les femmes qui parlent et non pas lui.
Ah oui, mais vous le prenez au moment où il est dans le coma pendant ces 8 années où il ne peut rien dire, rien faire, à peine
scier. Oui, c'est assez pratique, n'est-ce pas?
C'est assez pratique. Il y a quelque chose même de la vengeance. Alors voilà le roman. Donc Ariel Sharon dans le coma, il entend des voix de femmes. Mais voilà les faits tels qu'ils se sont racontés sur RFI entre le 4 janvier 2006, donc il a cette attaque, et le 11 janvier 2014, jour de son décès.
À la une de l'actualité, la dernière bataille d'Ariel Sharon. Le premier ministre israélien, victime d'une hémorragie cérébrale, a été plongé dans un coma artificiel par les médecins.
Une foule immense s'est réunie en début de soirée devant le premier lieu saint du judaïsme pour assister à la prestation de serment des nouvelles recrues de la prestigieuse unité des parachutistes. Un rituel d'intégration dont le déroulement a été assombri par l'hospitalisation d'Ariel Sharon. Entre les sonneries de clairons et les clameurs des soldats, un long silence s'est installé, au terme duquel le maître de cérémonie a souhaité un prompt rétablissement au premier ministre israélien.
Un marché animé de Jérusalem-Est. Les Palestiniens apprennent tout juste qu'Ariel Sharon, l'ancien premier ministre israélien, est mort.
Les gens de Palestine n'aimaient pas Sharon, vraiment pas. Pour nous, c'était un homme dangereux.
Puisqu'il est mort, nous disons que Dieu l'aide. Ce que je retiens, c'est que cet homme a fait des choses très mauvaises. C'était la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de paix, nous cherchons la paix et nous espérons la paix.
8 années de coma et votre roman Yara Al-Radban se passe vraiment entre ces deux dates clés, 4 janvier 2006, 11 janvier 2014, une demi-mort ou une demi-vie, écrivez-vous. Pour consacrer comme ça un roman à Sharon, faut-il qu'il vous intéresse, vous fascine peut-être?
En fait, j'ai pas le choix de m'intéresser à lui parce qu'il a marqué mon histoire. Je suis une Palestinienne réfugiée du Liban, donc les massacres de Sabra et Shatila, je les connais de près. J'avais des membres de la famille qui vivaient à Shatila, donc je ne peux pas. Il fait partie de mon histoire, tout comme d'ailleurs moi, je fais partie de son histoire, qu'il le veuille ou non. Et quand il est tombé dans le coma, j'étais en Palestine à l'époque et les Palestiniens autour de moi disait « Ah, vous voyez, il n'a même pas le droit à la mort. Il a trop de règles à compter. Trop de comptes à régler, plutôt. » Et effectivement, il est resté 8 ans à régler des comptes. Donc, c'est pourquoi je me suis intéressée à la question. Je me suis, en effet, qu'est-ce qui se passait dans sa tête pendant ces 8 ans? Est-ce qu'il y avait un réglage de compte? Est-ce qu'il y avait autre chose? Qui l'a visité? Et aussi, je me suis posé une question très simple. Comment on devient Ariel Sharon? Parce qu'il y a des choses qu'il a fait qui, moi, me dépassent. Je veux comprendre comment on peut devenir cet homme-là avec cette carte et cette histoire et ses politiques.
Qui l'a visité? Vous répondez assez simplement dans ce roman, toutes les femmes de sa vie. Mmh. Elles sont toutes convoquées et la première c'est Vera, sa mère. Mmh. Vous faites un très beau portrait de cette femme qui est présentée comme une pionnière puisqu'elle arrive en Israël avant même la création de l'État d'Israël en 48. Mais quand elle parle à son fils, en fait, elle confie sa nostalgie et vous en faites là encore une exilée qui est malheureuse sur sa terre de Palestine et qui aimerait revenir en arrière, en Géorgie, à Tbilissi.
Mmh. Oui, en fait, ça c'est la première chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à mes recherches sur Ariel Sharon, parce que pour ce roman, j'ai dû lire beaucoup, beaucoup de livres. Et dans toutes ses biographies, on parle de sa mère. Très peu, mais toujours à des moments très important de la vie d'Ariel Sharon. Et dans son autobiographie à lui, il lui avait consacré un chapitre en disant que ma mère s'est sentie toujours un peu aliénée en Israël. Elle rêvait d'être médecin, elle n'a pas pu réaliser ce rêve-là. Et même après 40-50 ans, elle n'a jamais perdu son accent russe. Et ça m'a beaucoup frappée. Donc j'ai creusé plus loin pour découvrir qui était cette femme.
Mais vous faites d'Ariel Sharon l'héritier de cette nostalgie aussi, un peu.
Et il en a vécu les répercussions. Je ne sais pas quel héritage il a hérité, c'est quel legs qu'elle lui a donné, mais il a vécu les répercussions parce qu'il n'a pas eu de tendresse de la part de sa mère. Et la question que moi je me pose, si sa mère avait pu s'accomplir et réaliser ses rêves, est-ce qu'elle aurait eu un enfant aussi dur et qui est devenu aussi militaire? On ne sait pas.
Il y a d'autres femmes dans ce roman. Il y a bien sûr Lily, qui est sa femme, qui lui fait découvrir Mozart. Et là encore, vous lui attribuez une nostalgie d'enfance, quand il écoutait petit de la musique, ce qu'il ne peut plus faire alors qu'il est un homme fort d'Israël, un général, un ministre de la Défense ou un premier ministre. Et puis il y a la première femme, Gali, qui est la sœur de la seconde, histoire familiale assez étonnante, puisqu'il épouse deux sœurs en fait.
Oui. Oui, et d'ailleurs, dans la religion juive, normalement, c'est considéré comme de l'inceste. Donc, il y a eu beaucoup de... Disons, c'était assez controversé, puis il y a eu beaucoup d'histoires autour de ça. Moi, pour moi, en tant que littéraire, c'est du bonbon, évidemment. Donc, j'ai essayé d'explorer tout ça. Et oui, mais je me suis beaucoup inspirée de tout ce que j'ai lu. Puis après ça, j'ai laissé mon imagination aussi développer. Imaginez qu'est-ce que c'est être une femme à cette époque et être mariée à cet homme.
Il y a aussi le rossignol, qui est l'infirmière, qui s'occupe de lui sur son lit d'hôpital, qui lui parfois les histoires ou laisse la télévision allumée. Et puis, il y a Rita, qui prend toutes les formes, toutes les histoires, qui peut être la mort ou qui peut être la vie.
Oui.
Elle est la femme rêvée. Celle-ci n'existe pas. Vous ne l'avez pas trouvée dans un livre d'histoire, Rita.
En fait, Rita existe. Rita, s'est inspirée d'un poème de Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien, et qui avait une amante juive qui s'appelait Rita, et il lui avait écrit un très beau poème d'amour que tous les Palestiniens connaissent par cœur. Donc Rita est très importante pour les Palestiniens parce que Rita représente l'espoir, représente l'amour. Et je me suis posé la question, qui pourrait être la conscience d'Ariel Sharon, que cette femme qui est juive mais qui était aimée et qui aimait un Palestinien, et c'est Rita.
Qui est Rita? J'aimerais que vous lisiez, Yara El Radban, un court passage de votre roman.
Le 14 mai 1948, le jour où mon poète est mort, le pays est né. Le jour de la naissance du pays, je me suis tuée. Dès lors, je meurs et je renais. Je suis la femme rossignol, femme voix, femme jument. Je sillonne collines, vallées, déserts, plaines, lacs, rivières. Je piaffe et piétine. Ma seule cavalière, la colère des femmes, leurs rêves, désirs, cauchemars. J'ai tué les chevaux et me suis suicidée. Traîtresse, Rita, je suis Rita, c'est le poète qui m'a nommée. Je suis née le jour de ma mort, enfant mort-né d'un pays mort-né. Je m'habille de la vie des autres, je foule la terre, plane dans le ciel, recueille les âmes, les porte sur mon dos et sur mes ailes. Chaque fois que mes ailes brûlent, je me tue et de mon sang je renais. Sur ma figure s'ajoutent les rides, une pour chaque vie. Un jour, je ne serai que ligne creusée dans le visage de la mort. Histoire effacée, destin rompu dans les joues de cette terre. Ce jour-là, je serai enfin personne. Me reconnais-tu maintenant? Qui es-tu? Je suis elle, elle et elle.
Extrait de votre livre, Yara El Radban, je suis Ariel Sharon, et je dois avouer qu'à la fin de la lecture, j'ai eu une certaine tendresse pour cet homme.
Oui, on m'a dit ça aussi. Et on commence toujours presque par s'en excuser. C'est vraiment intéressant comme réaction. Et en fait, la manière que je l'ai regardé comme un être humain. Et un être humain, pour moi, c'est une créature paradoxale. Capable des pires atrocités et capable des plus belles choses. Et c'est vraiment le regard que j'ai posé sur cet homme-là. Donc oui, on peut se permettre de sentir une certaine tendresse, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut lui pardonner ce qu'il a fait.
Non, mais vous dites qu'il a été finalement enfermé dans sa propre histoire, dans le mythe aussi. Vous écrivez le pouvoir, la vérité, le pouvoir ont ceci en commun, il se moque de la tendresse.
Oui,
Donc le potentiel de tendresse de cet homme n'a pas été exprimé.
Mais je suis contente de ce que vous avez dit, victime de cette histoire, parce que justement, s'il y a une question qui sous-tend ce roman-là, est-ce que c'est l'histoire qui nous produit? Et quand l'histoire s'impose sur nous avec toute sa violence, est-ce qu'on peut quand même garder une certaine part d'humanité? Et je pense que chaque personnage dans ce roman-là pose la question, et Arik aussi, Ariel Sharon, donc dans ce roman-là, se pose enfin la question. Et c'est ce qui va le libérer, en fait, et qu'il pourra enfin mourir. C'est un peu comme ça que j'ai vu la chose.
Alors, on connaît la fin de l'histoire, hein, forcément, puisque Sharon meurt, mais j'aimerais quand même raconter la fin du roman, parce que c'est un rossignol qui lui lit un livre, et qui lui lit un livre en arabe.
Tout à fait. Et son fils qui proteste, et elle lui dit, mais l'arabe est en vous, tout comme il est en lui.
Donc vous faites de Sharon un Palestinien.
Mais je pense que quand on a eu une histoire aussi liée et de façon aussi, je dirais, intime, cette friction-là, en fait, je crois qu'aucun Israël ne peut se penser sans les Palestiniens, tout comme les Palestiniens ne peuvent plus se penser sans les Israéliens.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on est en Israël dans une terre qui a changé de nom, avec une population qui a changé de langue en inventant l'hébreu, et où chaque moment de l'histoire et de la mythologie est nommé avec des mots spécifiques. Si on échappait à tous ces mots,
Qu'est-ce qui resterait? Des êtres humains. Et peut-être un petit peu moins de haine, et un petit peu moins de guerre, et un peu plus de justice.
C'est l'idée du livre.
J'espérais que ce serait ça qui ressortirait du livre, oui.
Merci beaucoup, Yara El Radban. Votre roman, je suis Ariel Sharon, est édité chez Mémoire d'Encrier. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci, à demain.